Merci de nous rejoindre sur Radio Orient. Il est 17h, le journal Nadia Bencher. Voici les titres de cette édition en France. C'est un week-end qui s'annonce particulièrement chaud. 24 départements sont en vigilance rouge. Face à ce nouvel épisode de canicule, le gouvernement déclenche un plan hors sec, chaleur extrême. L'Iran répond aux menaces du ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Téhéran promet de frapper l'État hébreu en cas de nouvelle attaque contre ses infrastructures. Mondial 2026, ce soir, les Bleus connaîtront leur adversaire à l'issue du match Espagne-Belgique. La France s'est qualifiée hier face au Maroc et empoché son ticket pour le dernier carré. Bonjour, la France s'apprête à vivre un nouveau week-end sous une chaleur écrasante. La troisième canicule de l'année s'intensifie avec un passage en vigilance rouge de 24 départements dès demain. Les autorités redoutent également une aggravation du risque d'incendie alors que plus de 25 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année. On fait le point avec vous, Salma Darlaoui.
Oui Nadia, la canicule gagne encore en intensité. Dès demain, 24 départements du Morbihan à la région parisienne basculeront en vigilance rouge, tandis que 56 autres resteront en vigilance orange. Au total, près de 54 millions de Français sont concernés par cet épisode de forte chaleur. Météo France prévoit des nuits particulièrement chaudes sur une grande partie du pays et des températures pouvant atteindre les 40 degrés dans l'ouest. Des orages localement violents pourraient également accompagner cette dégradation. Face à cette situation, le gouvernement déclenche le plan hors sec, chaleur extrême dans les départements en vigilance rouge. Des centres de rafraîchissement sont ouverts pour accueillir les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les sans-abri. La chaleur exerce aussi une pression croissante sur les services de santé avec une hausse des passages aux urgences et des interventions de SOS médecins liées aux fortes températures. Autre conséquence de cet épisode, le risque d'incendie reste particulièrement élevé. Plus de 25 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année, soit près de deux fois plus qu'à la même période l'an dernier. Selon les climatologues, la multiplication de ces vagues de chaleur est l'une des manifestations les plus visibles du changement climatique.
Merci Salma pour ces précisions. Et les fortes chaleurs qui persistent mettent l'organisme à rude épreuve, en particulier chez les personnes les plus fragiles. Si les autorités multiplient les messages de prévention, c'est aussi pour éviter une saturation des services d'urgence. Gérald Kierzek, médecin urgentiste, rappelle les bons réflexes à adopter face à la canicule.
C'est un plan canicule maintenant qui est bien rodé en France avant d'arriver à l'hôpital et j'allais dire pour éviter d'arriver à l'hôpital et aux urgences. Moi, je suis médecin urgentiste. On a vécu la canicule de 2003. On vit à chaque fois des épisodes de personnes âgées, fragiles, isolées qui arrivent d'ailleurs à retardement quelques jours après le début de la canicule et toutes les mesures gouvernementales, notamment de travailler avec les mairies, d'hydratation, de messages de prévention sont importantes pour éviter l'arrivée aux urgences. Et je crois qu'il faut quand même qu'on rappelle tous qu'il faut s'hydrater, ça on commence à tous bien connaître, 2 litres par jour, 2 litres et demi, pas plus, diminuer les activités, ça c'est vraiment le message fondamental, pas que pour les plus fragiles, c'est vrai que le plan gouvernemental il est très orienté sur les plus âgés et les plus fragiles, mais même pour les jeunes, on ne fait pas de jogging quand il fait ce temps-là, on ralentit les activités, un peu comme font les pays où il fait très chaud et où l'organisme s'habitue, mais encore une fois l'objectif c'est d'éviter à tout prix les urgences et si vous avez des symptômes, bah là il faut appeler le 15 parce que malheureusement il n'y a pas le choix.
Et on l'entend, hein, toutes les générations restent vulnérables face à ces très fortes chaleurs.
En fait, les premiers cas graves, coups de chaleur, hyperthermie, sont plutôt chez des jeunes ou des travailleurs qui ne se méfient pas, qui pensent que leur corps va résister et qui continuent à faire du sport sous la chaleur ou des travailleurs qui n'ont pas adapté leur rythme de travail. Ça, c'est la première phase de la canicule. Et la deuxième phase de la canicule, c'est les personnes âgées où le corps est en stress thermique et n'arrive plus à s'adapter, n'arrive plus avec un cœur qui a du mal à pomper, avec des médicaments qui fragilisent, je pense aux médicaments psychotropes, hein, pour cerveau, les antidépresseurs ou encore des médicaments pour le cœur. Et là, au bout de quelques jours, l'organisme s'épuise.
Le docteur Gérald Kierzek, vous êtes médecin urgentiste. Les hôpitaux, aujourd'hui, font face?
Les hôpitaux, aujourd'hui, sont sous tension en permanence, 365 jours par an. Et donc, le problème, c'est que la moindre goutte d'eau, le moindre événement à impact sanitaire, alors là, on parle de la canicule, on en parlait aussi il y a 15 jours, on en parlera encore tout l'été, parce qu'on n'est qu'au début de l'été, mais l'hiver, c'est avec la grippe, tout événement qui a un impact sanitaire, en fait, fait déborder l'hôpital qui est déjà plein.
De Kierzek, médecin urgentiste au micro de François-Xavier de Calonne. Et on apprend que depuis le 19 juin, 131 personnes ont perdu la vie par noyade en France. Annonce il y a quelques instants de la ministre des Sports, Marina Ferrari. Ce nouveau bilan nettement revu à la hausse concerne notamment de nombreux mineurs et des personnes âgées de plus de 60 ans. Les autorités appellent à la plus grande prudence pendant cet épisode de forte chaleur. Et non loin de là, en Espagne, au moins 12 personnes ont perdu la vie dans un violent incendie de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne. Les victimes ont été piégées dans leur voiture ou rattrapées par les flammes en tentant de fuir. Le bilan reste provisoire. 23 personnes sont toujours portées disparues et plusieurs centaines d'habitants ont été évacués. Plus de 3200 hectares ont déjà été ravagés par le feu. Au Moyen-Orient, l'escalade se poursuit entre l'Iran et Israël. Téhéran menace de frapper l'État hébreu en cas de nouvelle attaque contre ses infrastructures. Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale assure qu'Israël ne sera pas épargné si de nouvelles frappes sont menées. Cette mise en garde intervient après les menaces du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, qui avait déclaré que son pays est prêt à frapper l'Iran une troisième fois si nécessaire et que l'armée reste en état d'alerte. Échanges tendus interviennent après les bombardements américains de la nuit de mercredi à jeudi contre près de 90 cibles militaires iraniennes. Et Donald Trump affirme être prêt à poursuivre les discussions avec l'Iran pour tenter de mettre fin au conflit. Le président américain estime toutefois que le cessez-le-feu en vigueur depuis avril est désormais terminé après la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran. Et puis on vient de l'apprendre, une délégation du Qatar, pays médiateur entre Téhéran et Washington, est arrivé ce vendredi en Iran pour des pourparlers, c'est ce qu'affirme un média local. Les autorités syriennes annoncent avoir arrêté les membres d'une cellule affiliée au groupe État islamique soupçonné d'être à l'origine des attentats qui ont frappé Damas mardi. Une cache d'explosifs a été découverte cet après-midi. Ces explosions, survenues pendant la visite du président français Emmanuel Macron, ont fait un mort et 36 blessés près de l'hôtel où il séjournait. Les premières investigations attribuent ces attaques à une cellule liée à l'organisation Daesh. La Russie et la Turquie discutent d'une possible revente des systèmes de défense antiaérien russe S-400 acquis par Ankara à un pays du Golfe, une opération qui nécessite l'accord de Moscou. La Turquie cherche à se séparer de ses équipements afin d'obtenir la levée des sanctions américaines qui la frappent depuis leur achat en 2017. L'Ukraine a mené de nouvelles frappes de drones contre plusieurs infrastructures pétrolières dans le sud de la Russie. Une raffinerie et des installations de stockage d'hydrocarbures ont été touchées, tandis qu'un incendie est toujours en cours dans le port de Taganrog, où des habitants ont été évacués. En France, Ségolène Royal annonce sa candidature à la primaire de l'espace socialiste en vue de la présidentielle de 2027. L'ancienne candidate à l'Élysée assure vouloir s'engager avec humilité pour rassembler la gauche. Cette primaire sera réservée aux adhérents du Parti socialiste et de Place publique. Un animateur périscolaire a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur une fillette de 3 à 5 ans, sur des fillettes de 3 à 5 ans, dans un centre de loisirs parisien. Le tribunal a retenu la cohérence et la constance des déclarations de l'enfant ainsi que les contradictions de l'accusé. Cette décision intervient après la relaxe de deux autres animateurs poursuivis dans des affaires similaires à Paris. Place au foot. Maintenant, la France connaît déjà son prochain rendez-vous au Mondial, mais son futur adversaire reste à désigner. Les trois derniers quarts de finale se disputent à partir de ce soir avec une affiche très attendue entre l'Espagne et la Belgique. Le point sur ce Mondial 2026 avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Nadia, les Bleus sont les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Grâce à leur victoire de 2-0 face au Maroc, les hommes de Didier Deschamps poursuivent leur rêve d'un troisième sacre mondial. En face, les Lions de l'Atlas quittent la compétition avec les honneurs. Malgré l'élimination, les hommes de Mohamed Ouahbi ont une nouvelle fois marqué les esprits. L'équipe du Maroc étant la seule équipe africaine à atteindre une deuxième fois consécutive les quarts de finale d'un mondial, ils confirment leur place parmi les grandes nations du football mondial. Le mondial se poursuit désormais avec les trois derniers quarts de finale. Premier rendez-vous ce soir entre l'Espagne et la Belgique. Les Espagnols aborde cette rencontre avec le statut de favori, mais les Diables Rouges comptent bien déjouer les pronostics. Tout le monde nous voit déjà éliminés, a déclaré le sélectionneur Rudy Garcia en conférence de presse, avant d'ajouter que les statistiques sont faites pour être bousculées. Un discours qui s'appuie notamment sur le parcours de son équipe, capable de renverser le Sénégal en huitième de finale en inscrivant 3 buts en peu de temps après avoir été mené 2-0. Les deux derniers quarts de finale se joueront demain. L'Angleterre sera opposé à la Norvège d'Erling Haaland avant le duel entre l'Argentine de Lionel Messi et la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche. À l'issue de ces rencontres, le tableau des demi-finales sera définitivement connu.
Et au-delà de la compétition, Salma, ce mondial pourrait bien laisser une autre empreinte, celle de la montée en puissance du football africain. Avec 10 équipes engagées et plusieurs parcours convaincants, le continent a confirmé ses progrès. Peut-on parler d'un mondial historique pour l'Afrique ? La réponse de Franck Orokoti, directeur d'Africa Top Sport au Togo.
C'est la première fois que l'Afrique présente 10 sélections. Et avec ces 10 sélections, nous avons connu une qualification historique avec 9 sélections sur les 10 pour le premier tour. Je crois que c'est une bonne chose pour l'Afrique. L'Afrique a présenté un bon visage. Et les sélections africaines ont affronté des grandes sélections européennes et les sélections sud-américaines, je crois que c'est une bonne chose pour l'Afrique.
Alors, le Maroc était le porte-étendard du football africain, le porte-drapeau. D'autres équipes ont également changé le regard sur le football africain.
Oui, effectivement. Lorsqu'on voit par exemple la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un vivier intéressant au niveau de la Côte d'Ivoire avec de jeunes joueurs, Ahmad Kone, Ahmad par exemple, qui évolue donc à Manchester United. Il y a également d'autres joueurs qui se sont montrés. Je crois que c'est une très bonne chose pour l'Afrique. Non seulement le Maroc, qu'on connaît si bien que ce n'est pas une surprise, parce que déjà en 2022, ils se sont qualifiés pour la première fois pour une sélection africaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Et on savait que le Maroc allait bien représenter l'Afrique. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe qui est également dans l'ombre, comme la France. Et le Maroc est tombé. Je crois que c'est une bonne chose pour l'Afrique et pour ce que l'Afrique a présenté lors de ce mondial. Au-delà...
Quand vous dites une bonne chose pour l'Afrique, c'est le fait que le Maroc ait atteint ce stade. Le Maroc qui, bien entendu, fait partie des grandes nations du football mondial.
Oui, le Maroc fait partie aujourd'hui des grandes nations du football mondial. À voir déjà ce qu'il présente d'abord comme individualité, comme collectif. Je crois aujourd'hui que toutes les équipes, des grandes équipes mondiales, si elles veulent rencontrer le Maroc, elles doivent faire extrêmement attention.
Franck Orokoti, directeur d'Africa Top Sport au Togo, invité de François-Xavier de Calonne dans Grand Angle ce soir après le flash de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et merci à Raymond Jouan pour la mise en onde. On se retrouve à 18h pour un point de l'actualité. Excellente écoute sur nos ondes.